1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Are we on the air?
Oh, salut les PD!
SLP, salut les PD.
Bonjour.
Salut Ghislain.
Salut Philippe.
Oh mais tu es un petit peu molle cette semaine, Ariane.
Comment ça, je te permets pas.
Bah je sais pas là, c'était refais-moi le.
Salut Philippe.
Ouais, ouais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup comme ça. Donc SLP, salut les PD. On parle encore de féminisme ce soir.
Pour ouais, la dernière fois. Hein.
C'est la quatrième et c'est
ah,
la
ouais,
dernière
là,
fois.
C'est bon.
Pas trop déçu, Ariane?
Non mais je m'insurge, il y a hors de question que ce soit la dernière fois.
Non, ce ne sera pas la dernière fois. Mais en tous les cas, on parle donc de Oser le féminisme, un mouvement féministe d'aujourd'hui. Alors on a déjà abordé pas mal de thèmes, on a présenté l'association, on a parlé de leur position concernant la prostitution, la mixité et d'autres questions tout aussi essentielles. On a parlé
non,
la semaine dernière...
pas essentiel, on t'a dit pas essentiel, universel.
Essentiel.
Ne joue pas sur les mots.
On a parlé du genre
la semaine dernière. Et forcément... Dernière question que l'on posera relative à ce mouvement, c'est la question du politique, de la politique, de la dimension politique du mouvement.
Moi, j'ai posé dès le début qu'il y avait une volonté de transformation sociale. Après, on a parlé de différentes luttes en cours, donc à l'époque, tout le côté retraite, les actions au niveau de l'accès à l'avortement, parce qu'il y a eu des attaques quand même très très fortes. Donc il y avait une mobilisation particulière là-dessus. Et puis, dans l'actualité, il y a des choses vraiment sur le feu graves, quoi.
Par exemple,
je ne sais pas si vous avez entendu déjà ce truc barbare, ARS, donc c'est Agence Régionale de Santé.
Ouais.
C'est la marchandisation de la santé. Donc c'est, les ARS sont déjà en place, en fait. Et donc un certain nombre de politiques de santé vont passer par elles et ça sera... marché public.
Voilà. Donc, appel d'offres et marché donné, en gros, au plus rentable, c'est ça ?
Voilà, donc éventuellement au moins offrant. Donc il faut faire vraiment très attention à ce qui va être mis dans les cahiers des charges.
Mmh. Ghislain ?
Non, moi j'ai rien à te dire.
On écoute un petit son et tu réagiras peut-être dessus ?
Ouais, ça je veux bien.
Donc le premier son qu'on écoute, c'est...
Donc c'est sur les ARS et puis il y a aussi le côté les collectivités territoriales et donc ces histoires de compétences générales, ce qui a mobilisé le monde de la culture, mais ça, la question se pose pour tous les autres secteurs dans lesquels les collectivités territoriales...
Et notamment celui de la santé.
Voilà.
Ok. En 2014,
les collectivités territoriales, la loi est votée, si on n'arrive pas à la faire changer, vont perdre... une partie de leur possibilité de soutenir les associations, puisqu'ils n'auront plus le droit de faire appel à des compétences générales, ce qui est à terme va tuer un paquet d'associations. Et à côté de ça, on a actuellement une recentralisation de la santé, qui est à travers les ARS, qui est le fait qu'aujourd'hui, il y a le comité de pilotage des agences régionales de santé qui dirige, sous tutelle directe de l'Élysée et du ministère, qui dirige la politique de santé en France. C'est régionalisé la gestion, mais la décision politique, les orientations politiques sont prises dans ce petit cercle restreint entre l'Élysée, quelques ministres et le comité de pilotage de l'ARS. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va vers l'imitation. Les agences régionales de santé vont aller vers des appels d'offres Et on n'est plus dans des associations qui portent des projets et qui sont soutenues parce que leur projet correspond à l'amélioration de ce qu'on peut apporter au public, mais c'est eux qui définissent. Nous voulons définir, et sur les questions de santé, sur les questions de contraception, d'avortement, mais aussi sur d'autres questions qui touchent les jeunes, sur les politiques aussi qui vont se développer, on aura des appels d'offres. Actuellement, une remise en cause du monde associatif, de l'initiative et de la réponse aux besoins des personnes et à une politique publique qui tient compte des besoins des personnes et qui répond aux besoins des personnes, ça c'est en train d'être complètement supprimé pour mettre au profit une réorganisation, que ce soit de la santé, mais c'est pareil sur d'autres, la culture, etc., qui soit au plus offrant et à celui qui pourra gérer des gros projets. Donc je crois qu'il y a une mobilisation commune associative à avoir sur la défense d'une dynamique, proposition, création de projets qui tiennent compte des besoins des personnes et des besoins de la société et non pas de l'organisation financière et de la rentabilisation des projets au niveau des régions.
Il y a peut-être des choses à faire du côté des élus, notamment des sénateurs, pour essayer de... Parce que j'ai vu le monde culturel se mobiliser. Du coup, en toute honnêteté, ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu parce qu'aujourd'hui, le secteur culture, notamment, sort de l'exclusivité des compétences, ce qui n'est pas le cas de certaines politiques. Donc, c'est ce que je trouve dommage. Enfin, je travaille dans une collectivité, donc j'ai pu en discuter avec d'autres associations et pour l'instant, il n'y a pas une mobilisation du secteur de l'action sociale ou de la santé, ou en tout cas sur certains secteurs moi je la vois pas du côté tant associatif que du côté elle a peut-être lieu mais elle n'est pas très visible au niveau médiatique et je pense que ça va vraiment, enfin, effectivement vous le dites, hein, c'est un gros changement sur la vie des associations.
Il y a justement la coordination française du lobby européen des femmes, la FLE, qui prépare un certain nombre de courriers envoyés à tous les sénateurs et députés de la commission mixte paritaire.
On pourrait peut-être faire pareil que ce qu'on avait fait sur les différentes interpellations. Ouais. Prendre la lettre de la clé et mettre les mails des sénateurs et sénatrices.
Alors, ça, c'était il y a quelques semaines. Est-ce que tu sais si, depuis, il y a des choses qui ont été mises en branle, si j'ose dire?
Alors...
Il y a des mots qui font toujours marrer, hein.
C'est vrai.
Donc j'ai pas récupéré les cartes postales spécifiques sur ce thème-là. J'avoue que j'ai été prise par d'autres. Ce qui se passe quand même beaucoup de choses en ce moment. Oui. C'est un petit peu difficile. Il y en a un petit peu sur tous les fronts et c'est assez impressionnant comme on n'en entend pas forcément parler. Il y a eu toute une période où il y a eu l'appel de la santé, l'appel et l'appel des appels justement pour centraliser. Et puis de nouveau, c'est de nouveau un petit peu atomisé et il se passe beaucoup de choses. C'est difficile de tout suivre.
Et est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué sur cette réforme territoriale?
C'est toujours en cours. Donc moi, là, j'ai pas les cartes postales type à envoyer à nos différents élus. Sont pas arrivées jusqu'à moi. Je sais pas si c'est déjà... Mais bon, c'est sûr que c'est un truc qu'il faut suivre, quoi. Parce que c'est assez hallucinant, quand même.
Surtout qu'il faut suivre, surtout puisque là, on parle de sénateurs. On va élire en mars. Il va y avoir des élections cantonales qui vont élire des conseillers généraux qui seront les derniers. Et ces conseillers généraux participeront à l'élection des sénateurs et ces lettres types là sont destinées aux sénateurs, je crois. C'est-à-dire qu'en septembre, il va y avoir des sénatoriales. Donc les conseillers généraux qu'on va écrire en mars vont élire les sénateurs en septembre.
Alors c'est pas forcément si loin parce que là c'était déjà au programme de... Voilà, c'était des choses à discuter donc en commission mixte paritaire comme ça a été évoqué et il y a différents niveaux sur lesquels influer. Donc il y a un lobby qui a été cité là dans le son et puis donc en tant que citoyen faire signe que voilà quel type de santé on veut, quel type... Et tout ce problème des compétences des collectivités territoriales puisque ça n'entre en vigueur qu'en 2014. On n'est pas en 2014, donc on peut encore influer.
Et il y a cette étape importante de l'élection de mars qui est reliée directement à l'élection de septembre et avec peut-être une possibilité de changement de majorité au Sénat. Donc voilà, quoi. Enfin, on est, même si on n'entend pas parler de cette élection-là, alors qu'elle a lieu en mars. C'est une élection qui est quand même assez importante et qui peut influer justement sur ça, parce que ça va directement influer sur le Parlement.
Pour moi, de toute façon, tout moment où on propose de voter est important, vu comment ce qui peut se passer dans la rue n'est pas du tout entendu, puis parfois des votes exprimés sont pas entendus non plus.
Le sentiment que ça donne quand on écoute effectivement ces différents intervenants, c'est quand même, il y en a une qui le dit très précisément d'ailleurs, on a le sentiment que le secteur de l'action sociale est complètement atomisé. Alors il y a peut-être effectivement des initiatives qui sont prises sur le terrain, mais après, comment coordonner tout ça, comment faire en sorte que l'information remonte, circule, de façon à ce que la mobilisation soit plus grande encore.
Bah là, en l'occurrence, c'était un moment où c'était ouvert, puisque la personne qu'on a entendue parler au début du son, c'est quelqu'un du planning familial.
D'accord.
Donc ils avaient eux aussi une journée importante nationale ce jour-là, donc ils n'ont pas participé à la totalité des temps. Mais c'était important pour eux d'être là parce qu'ils reconnaissent justement le fond commun, quoi. Mmh. Mais c'est vrai que dans l'action sociale, la difficulté, c'est qu'un certain nombre des actions, depuis un bon moment, ne sont plus dépendantes de fonds nationaux.
Ouais.
Ça fait longtemps que beaucoup d'associations qui travaillent dans le domaine social, je ne pense pas forcément à la santé, sont tributaires de financements plus locaux où on est déjà dans les marchés et d'où... Du coup, il y a quand même déjà des rapports, entre guillemets, de concurrence entre les différents organismes. Donc, il y a moins d'espace qu'avant pour ces associations-là, pour se rencontrer, parce qu'elles sont... voilà. Il n'y a pas forcément de volonté de concurrence entre elles, mais le système de marché qui est déjà en place régionalement... pose quand même malheureusement un petit peu trop les termes de cette façon-là.
C'est pas très réjouissant tout ça.
C'est horrible.
Ouais, tout à fait.
Non, rien, c'est le monde qui change d'une façon qui va peut-être pas dans le bon sens, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut faire hyper... Enfin, c'est un peu vieille utopie, mais il faut vraiment faire attention quand on vote, il faut aller voter, quoi. Parce que apparemment, il n'y a que ça pour changer les choses.
Il faut aller voter et il faut peut-être trouver d'autres formes de mobilisation qui sont inventées. C'est pas forcément évident, mais du coup, des assos... Ouais, c'est ce qui est dit là, tout à fait. C'est ce
qui
est dit
là. Les associations sont des émanations des citoyens, c'est on se mobilise, on est militant, voilà, et on a envie de porter tel projet pour... l'éducation, pour la santé, le loisir, etc. Et c'est vrai que l'association, c'était l'espace en France, c'était vraiment un truc super important, la vie associative. Plus on rogne sur les financements associatifs, ça fait un petit moment quand même, ça fait des années qu'au niveau national, les grandes associations, même d'utilité publique, elles n'ont plus les mêmes financements que quand moi j'étais petite. Ça commence à faire longtemps. Donc si aussi localement, les associations n'ont plus accès au financement des collectivités locales.
C'est inquiétant.
Ah, c'est même plus qu'inquiétant. Enfin, tu vois, la culture s'est mobilisée et apparemment a gagné des choses, mais même dans ce domaine-là, même s'il conserve la possibilité d'être financé par des acteurs locaux, des collectivités locales, y a de graves problèmes dus à la chute des subventions.
Ouais.
Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a des départements qui ne donnent plus, qui l'an passé, je crois, n'ont pas donné de subventions à la création. Tu vois, parce qu'ils n'avaient plus d'argent, parce qu'il y a plein de projets qui s'arrêtent, parce que les finances locales ne suivent pas. Donc il y a vraiment un gros problème de vie locale, quoi, de vie locale, de qu'est-ce qu'on veut dans nos localités, qu'est-ce qu'on veut dans notre vie, et voilà, quoi. Et du coup, les gens qui ont plus d'argent, ils sont obligés soit de changer leur projet et d'aller vers des spectacles plus tout public pour qu'ils soient plus rentables et qu'ils puissent faire appel à des sociétés de production, ce genre de choses-là. Donc, c'est obligé. Donc, du coup, après, il y a aussi ce problème de création, créativité,
ouais,
tu vois.
Qu'est-ce que t'offres à voir
Et comment est-ce qu'on prépare les spectacles de demain, tu vois? Parce que les gens qui réfléchissent sur l'écriture contemporaine, sur les nouvelles formes de spectacles et tout ça...
Comme ils ne sont pas sûrs du public qu'ils vont avoir, ils ne vont pas être financés. financer.
C'est clair.
Exactement. Et ça rejoint tout à fait...
C'est les mêmes problèmes pour la santé, eh ben, c'est-à-dire oui. que comme la prévention, on ne peut pas donner de jolis chiffres, hein, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. C'est vraiment qu'est-ce qui est mesuré, quantifiable, qualitatif, etc. On a l'impression que c'est un combat d'arrière-garde, mais c'est encore tellement problématique aujourd'hui.
Et puis c'est aussi à qui est-ce qu'on confie les projets ? Tu vois, c'est-à-dire, est-ce que c'est celui qui sait le mieux communiquer, sait le mieux présenter, ou est-ce Absolument. Que c'est celui qui est le plus compétent ?
La forme qui, du coup, prend le dessus sur le fond.
Sur le fond,
c'est le problème de tout ce qui se passe avec appel d'offres.
Appel
quoi.
D'offres
c'est, le,
ça, ouais.
c'est le dossier qui est évalué par des gens qui sont d'abord des administratifs, qui le font par rapport au cahier des charges. Donc, est-ce que les élus qui définissent le cahier des charges ou les techniciens, est-ce que... Tous ces petits rouages... C'est inquiétant, quoi. On ne sait pas quelle graisse ils vont mettre là-dedans.
Ouais. Et ça, on le voit déjà, tu vois, au niveau de la santé, sur les hôpitaux et le fonctionnement des hôpitaux. Enfin, tu vois, ces fermetures de petits hôpitaux de proximité qui permettaient aux gens de ne pas faire 150 km pour aller accoucher et ce genre de ouais. choses-là sont fermées parce qu'ils ne sont pas rentables. On voit que cette marchandisation
quoi,
du
voilà.
monde de la santé, elle conduit à un moins bien-être, à moins bien vivre.
Oui, c'est un processus de concentration, en fait. Hein, de concentration et de prise de pouvoir du
financier.
Du financier.
Ouais. Ouais, voilà, l'économie d'échelle sur ouais. la santé, c'est juste pas possible. Quoi.
C'est-à-dire le service public, le service, le bien-être général ne fait pas le poids face au bien-être des billets de banque.
Heureusement qu'il reste un son pour nous remonter le moral.
Bah avant, on va faire appel à Brigitte pour nous remonter le moral. Ça
ah
vous
ouais,
dit
d'accord.
SLP, l'émission qui vous trouve le cucu.
Oh, c'est heavy là. C'est trop.
Je veux être aimée pour moi-même et non pas pour mes ornements. Je veux être adorée quand même. Sans cheveux, sans chair et sans gants. Belle dans le simple appareil d'une fille arrachée au sommeil éternel. Éternel. Avec des habits c'est facile, avec des bijoux, des fourrures. J'aime ce qui est difficile. Je veux être aimée sans parure. Je veux être aimée pour ma peau et non pas pour des peaux de bête. Aimée pour la soie de mon dos et non pour les soies qui me vêtent. Belle dans le simple appareil d'une fille arrachée au sommeil éternel. Éternel. Avec des cheveux c'est facile, on peut se cacher derrière eux. J'aime ce qui est difficile. Je veux être aimée sans cheveux. Je veux être aimée pour mon crâne, pour mon petit os pariétal. Je veux que les hommes se donnent pour mon charmant occipital. Belle dans le simple appareil d'une fille arrachée au sommeil éternel. Avec des chairs c'est trop facile, c'est vulgaire et c'est malhonnête. J'aime ce qui est difficile, je veux qu'on aime mon squelette. Je veux être aimée pour le pire, je veux être aimée pour mes os. Je veux que les hommes délirent comme des chiens sentimentaux. Belle dans le simple appareil d'une fille arrachée au sommeil éternel. Éternel, 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 éternel,
éternel.
Ouais, Brigitte, elle est éternelle. Enfin, à mes yeux, elle est éternelle. Je sais pas à vous autres, mais...
Ouais, moi je suis d'accord.
Est-ce que vous avez entendu parler de ses vœux au président ?
Oui. Je ne peux pas les répéter.
Tu peux pas les répéter ?
Bah si, écoute, on peut tout, on est entre nous.
Moi, je les ai pas entendus, mais il paraît que ça vaut le détour quand même.
Ouais.
Ouais. Enfin bon, la programmation musicale est cohérente à SLP, vous n'en doutez point, j'espère. Donc ça, c'était Brigitte Fontaine, et le titre, c'est Éternel, et c'est sur l'album Brigitte Fontaine est folle, qui a bien une trentaine d'années, facile, hein, mais qui n'a pas pris une ride. Donc, Oser le féminisme, dernière ligne droite, dernière émission. Donc, c'est assez pesant, en fait, les sujets qu'on a abordés. C'est pas très, très réjouissant.
Pourtant, moi, je garde un souvenir merveilleux de cette demi-journée.
Oui, de cette demi-journée avec eux, mais en tous les cas, sur notamment les ARS qu'on a évoqués ouais. précédemment, c'est vrai que c'est assez flippant.
Mais bon, donc, on va pas revenir dessus, on va pas genre plomber le moral encore une fois.
Mais c'est vrai que même là, tout de suite, c'était opérationnel. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on écrit au sénateur, on va préparer un courrier type, ça vous sera envoyé si vous êtes sur les listes de diffusion. Mettez-vous sur les listes de diffusion si vous y êtes pas, comme ça, vous aurez le courrier type à envoyer au sénateur par
donc
mail.
Donc là, Oser le féministe réagit et prépare des trucs là-dessus.
Oui,
pour,
donc en fait, il y a
mobiliser.
Ce qui était dit tout à l'heure, c'est en fait le club du lobby européen des femmes s'est déjà penché là-dessus. Et donc, il y aura centralisation du courrier type qui sera repassé dans les différents réseaux. Voilà, d'accord. C'est ça qui a été annoncé en tout d'accord. cas.
C'est ça que je trouve intéressant, moi, dans ce mouvement dont on parle là, depuis quelques semaines. C'est son dynamisme et son...
La réactivité
Non, c'est pas ça. En fait, le côté rien n'est jamais acquis. C'est-à-dire, tu vois, on en avait parlé quand on a parlé de leur position sur la prostitution. Mmh. On avait dit, il y a une position là qui est arrêtée pour... jusqu'à ce qu'elle change.
Oui, c'est ça. C'est pas dogmatique, apparemment, en fonction, encore une fois, des gens qui viennent, qui interagissent dans l'association.
Ouais,
c'est hyper participatif. Les positions peuvent bouger.
Ouais.
Mais c'est vrai que moi, j'ai vraiment senti que ça a été un mouvement avant d'être une association. Quoi. Mmh. C'était une volonté, une dynamique, avant que ce soit un cadre avec des statuts, un bureau, machin. Voilà. Donc il y a d'abord une volonté. Et qui est forte, qui est farouche. Vous avez entendu les différentes personnes qui s'expriment avec un franc-parler, un langage quotidien. Il n'y a pas de langue de bois, c'est...
De la discussion, de l'opposition de point de vue
et le débat est accueilli, quoi. Et il est souhaité.
Et de la formation de gens. C'est-à-dire, tu vois, on a rencontré de l'homophobie dans le mouvement, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour sensibiliser? Tu vois, il y a toujours ce côté éducatif, ce côté... On forme aussi les gens à certaines choses. Enfin, je trouve ça vraiment... je trouve c'est un vrai beau mouvement qui est intéressant, en tout cas, dans sa façon de fonctionner, parce que ça change beaucoup des mouvements militants qu'on peut connaître, où tu as le chef qui décide, et en fait, le reste est aux ordres. Et du coup, c'est hyper pesant, hyper lourd, et c'est dur de trouver sa place, quoi.
Moi, ça m'a vraiment réjoui. Je me suis dit que c'était lié à la jeunesse du mouvement. Mais en même temps, on retrouve des personnes dedans qui ont connu d'autres luttes et d'autres structures. Et donc, moi, j'étais vraiment ravie du côté super stimulant, vivifiant de ce qui était échangé. Parce que c'est vrai, moi aussi, j'ai des expériences de vie associative, d'associations qui ont pourtant des volontés de transformation sociale, d'intervention, qui font de l'action sociale, etc. Mais
qui sont plus figés,
ouais, voilà, comme tu disais, inertie, c'est très difficile parce que justement on est habitué à des modes de fonctionnement, etc., la place de chacun, bla bla bla. Est-ce qu'on fait les choses, quoi?
C'est peut-être aussi qu'elles ont su prendre du recul par rapport aux autres mouvements, tirer des leçons et avancer, proposer des choses nouvelles, c'est-à-dire être à l'écoute des gens, à l'écoute de l'air du temps et de ce qui s'est passé avant. Enfin,
je pense que c'est aussi des gens qui portaient une dynamique en elle-même et que passer son temps à parler et ne pas agir, c'était juste insupportable. Il y a vraiment un petit côté trublion hyperactif. Enfin, moi, j'ai adoré le côté hyperactif, ça va. Mais ouais, non, c'est vraiment... parler, c'est bien. À un moment, on met les mains, on y va, quoi.
Et au niveau politique, elles en sont où?
Eh ben, je sais pas. Le dernier son que tu nous proposes, c'est autour de quoi, Ariane?
Bah alors, il est en dernier, mais ça faisait partie des choses qui ont été présentées. Voilà, c'est le positionnement de l'association, parce que donc sur la question des mouvements qui existent, etc. C'est un homme qui a posé cette question, il me semble.
Comme quoi?
Quoi?
Et oui, c'était est-ce qu'il y a des proximités, est-ce qu'il y a risque de récupération, etc.
Avec
et,
des partis politiques
ou des syndicats. Qu'est-ce que c'est que cet outil-là? Puisque le jour où cette assemblée générale s'est tenue, c'était une assemblée générale constituante. Donc il n'y avait pas de statut à ce mouvement jusque-là. Et donc il y avait des gens qui s'inquiétaient. Est-ce que c'est pas une émanation de... Voilà. Alors, je ne sais pas si c'était une inquiétude ou si c'était justement pour faire parler que ce soit entendu. Mais elles ont été très claires là-dessus, quoi.
Bah, on les écoute.
Moi, je pense que c'est une action non politisée. Pour moi, ce n'est pas possible. Une action militante, elle est toujours politisée, puisque nous, on revendique des objectifs politiques. Et donc, à un moment donné, c'est important de pouvoir porter ce combat aussi au sein des organisations politiques. Mais si elles nous ferment la porte au nez, on ne peut pas les forcer quoi, à être féministes. On peut les forcer, mais par le rapport de force.
La droite nous a fermé la porte au nez ou on n'est pas allé les voir ce qu'on peut dire?
Je sais pas. On a proposé à tous les partis politiques de s'abonner, à tout le monde. Et par exemple, moi l'exemple très récent que j'ai en tête, c'est on a proposé par exemple à Simone Veil de signer un manifeste qu'on a lancé. La vérité, c'est que vous allez sur cette internet d'Oser le féminisme et le premier truc qui saute à la tête, c'est signer l'appel des féministes contre la réforme des retraites. Donc je pense que le cabinet de Simone Veil, ils sont allés voir et ils ont fait non, ça ne va pas être possible. Donc quand on s'est créé, c'est assez rigolo parce que c'est vraiment une question toujours hyper sensible, la question du rapport aux politiques. C'est très franco-français, mais moi je trouve ça très intéressant le résultat. Mais parce que entre les syndicats, les politiques, les associations, il y a toujours des rapports un peu particuliers. Nous, dès le début, on a assumé, et c'est le texte de lancement que vous avez au dos de l'ordre du jour, on a assumé qu'on était un mouvement progressiste. Progressiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour nous, le féminisme, c'est vecteur de transformation radicale de la société, sur des bases de progrès social. Donc plus de services publics, plus de protection sociale. Et donc, en disant ça, implicitement, on se met plutôt du côté d'un certain camp politique. Mais c'est important pour nous de ne pas dire qu'on est de tel camp ou de tel camp. Parce qu'on veut d'abord garder une totale indépendance par rapport aux partis politiques. Alors là, c'est plutôt pratique, parce que les partis politiques avec lesquels on a des relations, ils sont plutôt dans l'opposition. Donc ils sont plutôt d'accord, voilà. Le jour où, si un jour, ils arrivent au pouvoir, ça va être plus compliqué, parce que nous, on sera toujours dans la rue pour dire, là, ça va pas, là, il faut faire plus, ça ne fait pas assez, faut faire autrement, etc. Il faut plus d'argent pour les droits des femmes, bon. Et donc c'est pour ça que c'est important de garder cette distance. Parce que c'est toujours facile quand on n'est pas d'accord et qu'on s'oppose à quelque chose, quand il faut mettre en œuvre des politiques, ils ont toujours besoin qu'on leur rappelle qu'ils ont dit un jour qu'ils étaient féministes, et donc il faut leur rappeler régulièrement. Donc ça, c'est vraiment important pour nous de dire, nous, on n'est pas partisane, et c'est ça, c'est peut-être ça que tu voulais dire en disant politiser, on n'est pas partisane, on a la même relation, on est laïque dans notre relation aux partis politiques, on regarde tous ce qu'ils font, et aujourd'hui, par exemple, on regarde ce que fait l'UMP. Roselyne Bachelot, elle n'arrête pas de dire « moi je suis féministe », ou je sais pas, en tout cas, elle dit qu'elle est pour les droits des femmes sur toutes les télés. En même temps, elle ferme des centres IVG partout. Donc ça, c'est pas vrai. Et nous, on le dira, Roselyne Bachelot, elle n'est pas féministe, et la politique qu'elle mène, elle est dangereuse pour les droits des femmes. Mais on fait pareil avec tout le monde. Quand on était aux universités du Parti Socialiste, par exemple, on avait fait un petit quiz sur féministe et socialiste. Il y avait des questions où on les bousculait un peu sur eux, leur mode de fonctionnement, parce que dans leur statut, c'est marqué qu'ils sont féministes. Alors, ils ont une première secrétaire femme. Vous regardez son entourage, vous regardez les prises de parole d'un certain nombre de responsables socialistes. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc voilà, on est vraiment ce rapport laïque et décomplexé vis-à-vis des organisations politiques. Et on assume d'ailleurs qu'on a envie d'aller les voir pour leur dire, pour porter, on est le mouvement social, quoi. Donc notre objectif, c'est que ça ait un débouché. Ça y est, un débouché dans la vie réelle, et donc à un moment ou à un autre, les partis politiques s'en emparent.
Ah, c'est plaisir.
Alors, elles ne sont pas partisanes, ou ils ne sont pas partisans, parce qu'il y a des mecs aussi
Oui, mais les femmes l'emportent, quand il y a plus de filles, elles disent « elles ». C'est vrai, on va dire ça. Expliqué l'autre semaine.
Tu m'as expliqué, oui.
Non, j'ai posé la question. Moi, j'aurais tendance à dire « yel », j'aurais tendance à mettre « il n'y a pas de genre ».
« Yel », donc contraction « il », « elle », c'est ça ?
Oui, voilà.
Est-ce que c'est utilisé, ça, au sein de l'association ?
Non, c'est plutôt quand il y a plus de femmes, les féminins l'emportent. Il n'y a pas de raison que le masculin efface le féminin. Ou alors on dit les deux. Il y a pas mal de mouvements féministes sur le côté langue qui font vraiment très attention, spécialement à l'écrit, maintenant qu'il y a des copier-coller, etc. Ouais. On dit toutes et toutes, les choses sont répétées. Ça, c'est quelque chose qui est assez respecté. Même internationalement, ça fait partie des choses...
Des conventions contentes, enfin des conventions, c'est pas encore des conventions, mais c'est des choses...
Ah, il y a quand même des documents écrits, hein. Y a quand même pas mal de choses. Par exemple, sur les titres et fonctions, tout ce qui est profession, etc., oui. La plupart des grands pays francophones ont posé des écrits vraiment pour féminiser les titres.
Tu veux dire que si un jour il y a une fille qui entraîne l'équipe de France de foot, ça sera une entraîneuse?
Voilà, non, justement, je pense que c'est entraîneur...
Ils ont déjà essayé, elle s'appelait Zaya, mais...
Et en plus, je rigole, putain, c'est trop la honte.
Mais c'est parce que c'est Ghislain, je l'aime. C'est spécial.
Bon, alors, mouvement décomplexé. Est-ce que, je sais pas, finalement, après avoir passé une grosse demi-journée avec eux, comment tu le qualifierais finalement ce mouvement ?
Mais je pense que c'est le mot que tu viens d'employer, le plus important, c'est mouvement. C'est vraiment le côté dynamique et opérationnel. On n'est pas dans du blabla. On parle, on se dit des choses super intéressantes, mais on est tout de suite dans qu'est-ce qu'on en fait, quoi.
D'accord.
De ce qu'on se dit.
Comment on peut prendre contact avec Oser le Féminisme ?
Donc, comme je l'ai dit les précédentes semaines, leur site internet est très facile à trouver. C'est tout attaché, c'est assez facile de naviguer dessus. Vous avez tous les contacts. Il y a un article qui est sur le site qui porte sur les différents groupes. Et en bas de cet article, on trouve directement les adresses mail des personnes qui animent ces groupes-là. Donc on peut suivre auprès de ces personnes les différentes activités. Vous avez aussi donc le journal, la publication collégiale. Donc voilà, on suit très facilement l'actualité du mouvement. Et puis pour le fun jaune, je rappelle « Vie de meuf ». Énorme, vie de meuf.
Et je rappelle aussi qu'a priori, à ce jour, il reste encore une antenne à monter. En
Languedoc-Roussillon, et que là, on peut contacter Ariane.
Vous laissez vos messages à Divergence FM qui transmettra.
Ou sur notre page Facebook.
Par exemple. Voilà.
Et ben voilà. On a fini le premier cycle.
On a fini le premier cycle. 4 émissions sur Oser le Féminisme, sans faire le tour, encore une fois, de la question, mais on a donné tous les contacts pour rester...
en contact.
Au fait... de ce que fait l'association à suivre. À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
SLP, si tu es sage, on va recommencer. Je raconte une histoire d'amour. Au printemps, un rossignol se pose sur un cerisier. Le cerisier dit au rossignol: ouvre tes bourgeons, fleuris avec moi. Le rossignol dit au cerisier: ouvre tes ailes, vole avec moi.
Ils sont bien partis, tes mecs. Tous les paumés qui se marient sont pareils. Tous aussi bien assortis. Casserole, cheval, poisson, raton, doigts de pied, bigoudi. Et chacun des deux pense qu'à friser l'autre ou à le faire entrer dans sa godasse.
Je raconte la fin de l'histoire. Alors le rossignol ouvrit ses bourgeons et fleurit. Et le cerisier ouvrit ses ailes et s'envola en apportant le rossignol.
Et qu'est-ce que c'est ? Une fable ?
C'est l'amour.
Oh.